17h30. C'est un rendez-vous. CIBL 101.5 Montréal.
Vivre Montréal. Montréal.
Alors, ici CIBL. On entre en onde bientôt. Dans 5 minutes.
CIBL 105, au cœur de Montréal.
Au son du scratch, il sera très approximativement midi.
CIBL 105, Montréal.
François Morin, bienvenue à Intention Inc., l'émission où on célèbre l'entrepreneuriat sous toutes ses formes. Aujourd'hui, nous allons discuter de neurosciences, publicité et d'intelligence artificielle. Gros mandat. Pour ce faire, notre invité aujourd'hui est Kevin Combe, cofondateur de la start-up Epoch, qui offre une solution technologique unique permettant de grandement améliorer la performance des visuels publicitaires. Pour leur projet entrepreneurial, Kevin Combe et son associé Jean-Maxime Larouche ont été accompagnés par la base entrepreneuriale du HEC, partenaire de contenu de l'émission Intention Inc. Enfin, important de souligner que l'entreprise Epoch a gagné le prix Datapreneur du Centre d'entrepreneuriat de l'Université Montréal ainsi que le Demo Day de l'accélérateur Banque nationale. De plus, en 2023, Epoch a reçu un financement de 3 millions de dollars canadiens provenant de Gestion Colvest et Distinction Capital pour les soutenir dans le développement de leur plateforme et leur clientèle en Amérique du Nord et en Europe. Et en terminant, Jean-Maxime Larouche et Kevin Combe ont été reconnus en 2023 par la prestigieuse revue d'affaires Forbes dans la catégorie Top 30 Under 30 in Marketing and Advertising. Kevin, bienvenue à Intention Inc.
Merci, François.
Est-ce que j'ai fait un bon résumé?
C'est une belle photo.
Kevin, avant d'échanger sur les différents aspects de votre projet entrepreneurial, à toi et ton associé Jean-Maxime, peux-tu nous présenter qui tu es brièvement, ton parcours académique, parcours professionnel, t'as grandi où, etc., etc.
Bien sûr, avec plaisir. Ben, ça s'entend mon accent. Français, immigré à Montréal depuis 10 ans, bientôt 11. Je suis né en France. J'ai grandi sur la petite île de Tahiti en Polynésie française, pas très loin de Bora Bora, que beaucoup de gens connaissent. J'ai immigré à Montréal en 2013. J'ai fait un bac en économie à l'Université de Montréal, ma maîtrise au HEC en stratégie. J'ai commencé à travailler en consultation en stratégie. J'ai fait un an en vente chez FedEx. Et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré Jean-Maxime et où l'aventure de l'entrepreneuriat a embarqué.
Puis, qu'est-ce qui t'a motivé à devenir entrepreneur, avant même le projet d'Epoch? Est-ce que c'était toujours un rêve ou c'était latent?
Je pense que c'était latent et un peu endormi. Je viens d'une famille où, au niveau de mes grands-parents, ils étaient tous principalement entrepreneurs ou profession libérale, j'ai envie de dire. Fait que j'ai toujours entendu ça dans la maison, à la famille, etc. Et je pense que c'est resté en dedans, même si dans mes études universitaires, c'était pas tant quelque chose où je me disais, je vais fonder une entreprise. J'étais plus parti grande entreprise et carrière. Et c'est vraiment, je pense, quand j'ai rencontré Jean-Maxime, où tout d'un coup, ça a rallumé une étincelle de me dire, non, il y a de quoi, puis ça vient me chercher profondément.
Jean-Maxime, avais-tu cette fibre entrepreneuriale? Parce que si tu regardes son parcours académique,
ouais, je pense que
docteur en neurosciences, c'est loin de l'entrepreneuriat.
C'est loin dans son parcours académique, mais je pense beaucoup plus proche dans sa vie. Son père est entrepreneur en construction. Il a accompagné son père sur les chantiers. Il a toujours vu son père travailler, avoir une entreprise, avoir des employés, etc. Fait que moi, quand j'ai rencontré, c'était une évidence pour lui. J'ai même eu l'impression que rien d'autre ne pouvait exister de son point de vue qu'avoir son entreprise puis bâtir son entreprise. Fait qu'on s'est retrouvés ensuite là-dessus. Mais au départ, c'est sûr qu'il avait comme cette fibre entrepreneuriale beaucoup plus exprimée dans les premiers temps que moi.
Là, vous êtes rencontrés chez FedEx, c'est ça? Le...
Non, on s'est rencontrés sur le campus de l'Université de Montréal au Second Cup sur Côte-des-Neiges, exactement, par une connaissance commune.
OK.
Puis ça se fait comme ça.
Puis comment le projet a pris naissance?
En fait, quand j'ai rencontré Jean-Maxime, on avait une connaissance commune. Puis en gros, je savais que cette personne était un peu sur ce projet avec lui. Déjà plusieurs mois à l'avance, Jean-Maxime, en fait, avait déjà, dans le cadre de sa maîtrise, vraiment comme projet on the side, travaillé, en fait, sur Epoch, sur l'idée d'être capable d'entraîner des modèles d'intelligence artificielle à répliquer la façon dont le cerveau traite l'attention et la mémoire. Fait que ça, c'était vraiment un projet 2019 qu'il a fait les soirs, les week-ends, faisable. D'un point de vue, genre, technologique, est-ce que c'est quelque chose qui est faisable? Et moi, quand je l'ai rencontré fin 2019, ce qu'il m'a montré, c'est le résultat d'une première ébauche qu'il avait faite d'un point de vue AI de « Oh oui, on peut mettre des images, puis on est capable de prédire, puis on sait que ce qui est prédit, on l'a testé ensuite, puis on sait que c'est vrai.
Okay. »
Moi, quand j'ai rencontré, c'était ça. La technologie était là, qui était issue de la recherche et du domaine académique. La question ensuite, c'était « Ça intéresse qui ?»
OK. Puis le nom Epoch.
Le nom Epoch.
C'est assez inusité comme nom.
Ouais, j'aime beaucoup. Jean-Maxime avait déjà choisi le nom de Epoch et je trouvais que ça faisait du sens. Ça vient d'hippocampe, okay. La zone du cerveau qui est responsable pour l'encodage de l'information et sans laquelle on pourrait pas faire énormément de choses. Donc Epoch. Et ce qui est intéressant, c'est que Epoch, autant en français qu'en anglais, ça reste la même chose, hippocampus. Et que quand on le raconte à des clients ou quoi que ce soit, il y a toujours un sens derrière le nom et je trouve ça important.
Puis quand j'ai passé à travers ton site, puis il y a des articles qui ont été écrits sur vous, ce qu'on comprend, c'est qu'il y a eu plusieurs itérations à cette idée, pour en venir à, comment appeler ça, la performance des visuels publicitaires. On savait qu'on avait une science, on avait une technologie, mais on ne savait pas l'application. C'est ce que je comprends, c'est ça?
Exact. La genèse de Epoch, quand j'ai rencontré Jean-Maxime, c'était vraiment pour moi un peu l'archétype de... l'étudiant brillant, doctorat, qui a travaillé sur un projet. Puis ensuite, c'est comme, qui que ça peut intéresser, cette technologie qui est capable de faire ça. On a passé l'année 2020, pendant le Covid, work from home, à juste contacter des gens dans plein d'industries. Fait qu'on avait une approche assez structurée. Et moi, au début, je suis rentré pour l'accompagner là-dessus, dire, qui travaille avec du visuel dans quelle industrie, c'est qui ces gens, puis on va aller leur parler à tous, Canada et même à l'extérieur. Puis on va leur présenter la technologie qu'on a, puis essayer de comprendre avec eux à quel genre de problème ils verraient une application à ça. Fait que c'était tout le travail de l'année 2020, et ce travail nous a amené à identifier des avenues potentielles. Mais 2020, c'était pas tant commercialiser un produit que comprendre qui ça pouvait intéresser.
Okay.
Et on a raffiné tout ça, et en raffinant, il y a des voies qu'on a laissées de côté, il y a des voies sur lesquelles on s'est concentré. Mais quand bien même, on a trouvé 2-3 voies prometteuses sur lesquelles se concentrer, c'est pas devenu une ligne droite. Ensuite, plus tu raffines, plus tu veux réduire et plus tu te rends compte que tu t'en vas à droite, finalement non, tu t'en vas à gauche. Mais on avait la vision de fond de où est-ce qu'on voulait s'en aller avec ça, qui était vraiment prédire la façon dont une personne réagit face à un visuel.
OK. Puis, avec ça, là, au niveau du visuel, c'est quoi l'opportunité que vous perceviez? Comment vous êtes arrivé à tomber là-dessus? On dit, ça, c'est l'avenue qu'on devrait développer. C'est avec ça qu'on part.
Je dirais qu'on a mis beaucoup de temps. On savait qu'il y avait une logique. Il fallait que ce soit un problème qui soit important, qui soit récurrent, qui coûte de l'argent et qui ait un sentiment d'urgence à vouloir agir dessus. Donc, quelles que soient les industries, on a parlé avec des gens du packaging, UX, publicité digitale, même traditionnelle. Il y avait vraiment ces critères de comprendre où est-ce qu'il y avait une opportunité. Et l'opportunité, ça a été justement, on a fini avec la publicité digitale parce qu'on s'est rendu compte que autant la partie à la fin des campagnes est pas mal déjà optimisée avec tous les outils marketing, autant le début conception visuelle est encore quelque chose de complètement manuel où on passe énormément de temps. Les gens ne se rendent pas compte combien ça coûte de créer un visuel. Et là, on s'est dit, non mais il y a très peu de mesures aujourd'hui qui permettent de savoir si la façon dont on crée une publicité est efficace. Et on ne peut s'en rendre compte qu'à posteriori, quand on l'a créé, quand on l'a lancé et quand on a dépensé de l'argent dessus, quand on fait ça sur du digital et sur du traditionnel, c'est la publicité. Et on s'est dit, c'est pas possible. Et quand on a parlé avec du monde de cette industrie, ils nous ont dit, t'es capable de faire ça, t'es en business. Okay. T'as de quoi?
Parce que ce que j'ai lu également, c'est que 20% du budget publicitaire est investi dans des publicités qui sont non performantes,
c'est, ouais,
dans votre publicité. C'est énorme, non?
C'est énorme. Ces statistiques-là, elles viennent, c'est des normes dans l'industrie. C'est entre 10 à 20 des budgets sur les campagnes numériques, on le sait, c'est dépensé par les plateformes pour, en fait, essayer de trouver qu'est-ce qui fonctionne, parce qu'il n'y a pas d'autre moyen. Donc, j'ai 10 000 $, j'ai 5 publicités, je mets les 10 000, je l'expose à la même audience, puis je finis par voir, selon mon objectif, ben, qui réagit le mieux à quel format. Et donc, on se rend compte sur des fins de campagne, ben, que sur mes 5 créatifs, finalement, j'en ai que 3 qui sont bons, mais j'ai quand même dû brûler une partie de mon budget sur 2 créatifs pour savoir qu'ils n'étaient pas bons.
Quand j'ai lu ça, ça me faisait penser, il y a une citation qui m'est venue à l'esprit, puis ça vient d'un homme qui s'appelle John Wanamaker. Wanamaker. La connais-tu, celle-là?
Ouais.
C'est que 50 % de mon budget de publicité est
gaspillé, mais je ne sais pas quelle moitié.
C'est ça. C'était le premier à avoir ouvert un centre d'achat.
Ça remonte à Ford. Je pense que c'était un des execs marketing de Ford il y a plus de 100 ans qui disait ça. Puis c'est toujours vrai.
Puis, bon, là, vous avez tombé sur votre couloir là, pour travailler ça. C'était quoi les premières étapes là, du démarrage de cette entreprise, Epoch?
Les premières étapes, ça a vraiment été le travail de fond qu'on a fait en 2020. Donc, être capable de comprendre à qui ça parle et où est-ce qu'il y a un marché. Une fois qu'on, fin 2020, on a eu trouvé où est-ce qu'il y avait un marché et un potentiel, globalement, fin 2020, on avait 2 axes. On avait la publicité digitale et on est encore resté beaucoup avec toutes les personnes qui font des interfaces numériques parce qu'ils travaillent beaucoup avec du visuel. On a fini par éliminer les interfaces numériques, donc les gens UX, UI, parce qu'il y avait une complexité inhérente à leur métier et leurs besoins pour laquelle on était encore trop loin, ça allait
peux-tu, oui. Ces expressions-là, peux-tu préciser ce que c'est?
UX, c'est User Experience. Donc, okay. C'est les personnes qui sont spécialisées sur tout ce qui est application et site web à optimiser l'expérience d'un utilisateur en ligne. Donc, le site d'une banque, on veut simplifier le fait qu'on trouve facilement comment accéder à son compte chèque, comment demander. Des personnes qui sont spécialisées à trouver comment est-ce qu'on peut réduire les frictions et maximiser le flow. Et donc ça, c'est vraiment, il y a beaucoup de gens qui travaillent là-dessus, il y a plein de cabinets. Et donc, ils travaillent beaucoup en itération et beaucoup en test. Et ils font beaucoup de tests avec des utilisateurs en live. Donc, c'est très coûteux. Et quand on a présenté ça à ces personnes, ben, ils trouvaient ça super intéressant de déjà, sur des maquettes, pouvoir comprendre, ben, là, mon regard se porte sur telle information, mais ce n'est pas ça qui est important pour moi. Donc ici, je crée déjà un premier point de friction. Et nous, on est capable de le faire, de montrer ça quasiment en live dans l'étape de maquette. On n'a pas encore besoin que ce soit en ligne, on n'a pas besoin de le montrer à des gens.
Peux-tu décrire l'offre de service d'Epoch?
L'offre de service...
Parce que là, on a un défi. Hein? On est à la radio, sur un balado éventuellement, mais il faut essayer de le visualiser. Alors, c'est quoi l'offre de service d'Epoch?
L'offre de service d'Epoch en 2024, on a évolué, mais c'est une plateforme en libre accès qui permet à des personnes en marketing, souvent soit les personnes en performance marketing ou les personnes en design, de mettre leur créatif sur notre plateforme, de préparer leurs critères de campagne, donc leur audience, etc. Et ensuite de lancer une analyse. Et nous, en quelques minutes, on leur envoie un rapport avec un classement de leur créatif selon leur objectif. Qu'est-ce qui fonctionne le mieux et qu'est-ce qui fonctionne le moins bien?
Puis vous mesurez quoi exactement?
On mesure ce qui est important pour les gens qui font du marketing en ligne, donc c'est-à-dire les taux de conversion. Donc, on va prédire le CTR, donc le click-through rate. On va prédire les coûts par lead ou les coûts par acquisition. Donc, vraiment, tout ce qu'une personne va chercher à optimiser quand elle lance une campagne numérique, c'est ce qu'on est capable de venir prédire.
On revient à Jean-Maxime. Parce que moi, ce que j'ai lu dans votre littérature, c'est ce que je comprends, là, tu me diras si je me trompe, vous mesurez l'attention instantanée, c'est-à-dire combien de temps une personne va rester sur ce visuel. Alors, plus c'est long, plus c'est, j'imagine.
Ça dépend. C'est vraiment la relation.
Okay.
Historiquement, c'est pour ça. Aujourd'hui, notre produit d'aujourd'hui est l'évolution de notre parcours et de où on a commencé. On a vraiment commencé avec le background de Jean-Maxime en neurosciences cognitives computationnelles, donc avec deux inputs importants. L'attention instantanée, donc qu'est-ce qui attire la pupille, et la mémorisation, ou en tout cas l'encodage de l'information visuelle à court terme. Donc globalement, quelle est l'information qui se rend réellement dans le cerveau? On le sait, les études le montrent, il y a 50% des informations qui ont attiré notre pupille qui ne se rendent jamais dans le cerveau parce que le cerveau filtre et il y a beaucoup de biais. Donc nous, ce qu'on a vraiment regardé au début et la technologie qu'on avait, la première, c'était vraiment ce ratio entre à quel point j'utilise l'attention et à quel point j'arrive à faire encoder une information.
La mémoire de ce visuel.
C'est ça. On appelle ça la charge cognitive en neurosciences. Nous, on a appelé ça le score d'impact parce que l'impact qu'on est capable d'avoir sur une personne.
OK. Puis ce que je comprends aussi, en lisant votre littérature, c'est que, comment je peux dire ça, vous interfacez sur une base de données où il y a 31 000 personnes
exact.
Qui ont participé à des, appelons ça, des tests.
Oui.
Ils ont vu 6 millions de visuels publicitaires. Et puis, ce que je comprends, c'est que vous soumettez un projet de visuel publicitaire à ce système, vous interfacez, puis le système vous renvoie l'information que ça fonctionne, ça ne fonctionne pas, ou voici comment vous pouvez l'améliorer. C'est ça?
C'est très bien résumé. C'est vraiment c'est, des données issues, comme tu le disais, de tests qui ont été faits dans différents laboratoires. Donc, les personnes acceptent de participer à ça et que les données soient aussi utilisées à des fins comme nous, on les utilise. Donc, mesure d'attention de la pupille avec du eye tracking, mesure de la mémorabilité avec des tests de mémorabilité. On a ces données et nous, on entraîne des modèles avec ces données, donc avec de l'apprentissage non supervisé, ce qui permet vraiment au modèle d'apprendre par lui-même les patterns et de trouver qu'est-ce qui tend à attirer l'attention, qu'est-ce qui tend à être mémorable. Et donc, une fois que nous, on a ces modèles qui sont entraînés, l'interface, c'est vraiment, j'ai envie de dire, assez simple. Mais le point, c'est vraiment de pouvoir remontrer à une personne, dans l'image que tu m'as donnée, voici ce qui va attirer l'attention, voici ce qui va être mémorable. Concrètement, voici où est-ce que tu as de l'impact. Est-ce que c'est vraiment là que tu as envie d'avoir de l'impact? Est-ce que tu as vraiment envie que les ressources cognitives des personnes qui vont voir tes publicités soient attirées sur le logo? Ou est-ce que finalement, ce que tu voulais, c'était surtout que ce soit sur le message? Et donc là, ça permettait aux designers, et je dis ça permettait, on a toujours ce produit, mais on a fait évoluer ensuite vers une deuxième version du produit, de montrer l'impact cognitif.
OK. Puis c'est précis à combien de pourcents, ça?
C'est ça qui est super intéressant, c'est que l'attention instantanée et la mémoire, c'est très consistant entre les personnes. Donc ce qui va attirer ton attention et ce qui va être mémorable pour toi dans les données que nous on regarde va aussi l'être pour moi à plus de 80-90%. Donc ce qui était intéressant aussi avec le premier produit qu'on a commencé à commercialiser fin 2020, c'est qu'on pouvait l'amener à différentes personnes dans différentes industries et ça restait applicable. Les designers pouvaient l'utiliser même s'ils disaient « oui, moi mon audience c'est des femmes entre 25 et 30 ans et notre personne, ben, moi c'est les hommes entre 45 et 50 ». Oui, mais c'est pas grave parce que ces mesures-là restent consistantes entre les personnes.
Entre les segments de marché. Alors, si tu mesures une femme dans la vingtaine versus un homme dans la quarantaine, au niveau de l'attention et la mémoire, ça se ressemble, c'est ça?
Parce que c'est des systèmes dans le cerveau qui sont liés à notre héritage d'espèce humaine, donc l'évolution qu'on a eue, et pas tant sur le vécu individuel de chaque personne. Ce qui n'est pas vrai pour les émotions, par exemple. Les émotions sont beaucoup plus liées à l'expérience individuelle.
Puis, cette base de données-là, vous achetez ça? Comment on trouve ça?
On les trouve quand on est dans le domaine.
OK. Ça se vend.
On a accès, on arrive à avoir accès à ces bases de données justement par le background de Jean-Maxime. Monsieur, madame, tout le monde n'arriverait pas nécessairement à trouver ces bases de données-là.
Alors, si on est un neuroscientifique qui fait des études avancées dans le domaine, on peut avoir accès à ces bases de données-là et les utiliser. Est-ce qu'il y a un coût à utiliser ces bases de données ou comment ça?
Pas nécessairement.
Okay.
Pas nécessairement. Bien sûr, il y a beaucoup de bases de données qui ne peuvent pas être utilisées à des fins commerciales. Nous, on utilise celles qui nous permettent justement de le faire. Ça faisait partie des premières choses aussi dont on s'est assuré quand on a commencé à développer l'application commerciale de Hipoc, une fois que ça a été sorti d'un projet plus on the side.
OK. Puis, c'est complexe tout ça. C'est quoi les premières étapes pour développer tout ça? Là, il y a eu la recherche, tout ça. Il y a eu l'itération. Là, vous avez décidé qu'on se lance dans l'évaluation des visuels publicitaires. On commence où? On commence par quoi? C'est quoi le...
On commence avec les clients.
Okay.
C'est ultimement, Jean-Maxime avait développé en local sur son ordinateur les modèles d'intelligence artificielle en MVP, donc vraiment une première version qui n'avait pas pour objectif de...
MVP pour nos auditeurs, c'est...
Most Valuable Product. Okay. Donc c'est le
modèle, c'est ça?
C'est la première version qui permet de démontrer de la valeur à un potentiel client. C'est pas parfait, c'est potentiellement avec des bugs, mais c'est ce qui permet de montrer à une personne la solution que tu peux apporter à son problème. Donc nous, on avait ça. Et donc, on a commencé à rencontrer des clients potentiels et à leur présenter. Donc, ça, c'était 2020. Voici ce qu'on est capable de faire. Envoie-moi des publicités.
Puis vous approchez qui? Dans quel domaine? Sans nommer de nom, mais des secteurs?
On a approché, je disais tantôt, les gens en packaging. Donc, beaucoup, en fait, au final, les agences de publicité. Il faut savoir que Jean-Maxime et moi, on n'avait aucun background dans ces industries-là. Mais donc, ça a beaucoup été la publicité, les gens qui travaillent sur les interfaces numériques, le packaging. On a même parlé avec des gens de Thales qui travaillent sur les interfaces des systèmes d'urgence, comme les satellites, les écrans dans les avions. Mais je dirais qu'on s'est vraiment concentré à partir de fin 2020, surtout la publicité numérique. Donc, on parlait beaucoup avec les agences et ensuite les entreprises qui ont besoin de créer du contenu numérique. Et on parlait autant avec le côté personnes de marketing en performance qui roulent les campagnes sur les plateformes, mais aussi beaucoup avec les designers qui sont à la création de ces contenus un peu plus en amont.
Puis là, combien, c'est-tu des vrais clients ou c'est juste des tests? C'est quoi, c'est...
Ouais. On commence, nous, on a vraiment commencé avec une approche plus collaborative en disant, on a développé ça, on a entendu auprès de beaucoup de personnes que ça répond à certains problèmes. Donc là, on n'était vraiment pas dans une phase de commercialisation, on était dans une approche de validation d'un intérêt. Une fois qu'on a eu validé l'intérêt, la deuxième étape, ça a été d'approcher des clients avec une approche commerciale. Et donc de dire, on sait ce qu'on a, on sait que ça vaut quelque chose. Et on veut vous le vendre parce qu'on sait que pour vous, c'est un pain.
Okay.
Et donc là, ça a été cette approche-là. Et c'est sûr que c'est compliqué. Il faut imaginer, on est deux. On n'a pas de background en commercial dans l'industrie. On n'est pas nécessairement connu. On n'est pas encore backé par les accélérateurs nécessairement, etc. On est vraiment au tout début. Donc, on trouve des gens qui ont aussi cette croyance dans le projet entrepreneurial. Et beaucoup de personnes, au début, regardent et n'y croient pas trop. Et donc, ce qui est très difficile au début, c'est que tu te fais fermer beaucoup de portes parce que les gens disent « c'est cool, mais reviens quand tu as 20 employés, reviens quand tu as ceci, reviens quand tu as cela. Aujourd'hui, tu es trop petit, j'ai du mal à voir comment tu serais capable de scaler dans mon entreprise. » Donc, au début, tu trouves vraiment des partenaires, mais avec cette approche commerciale. Parce qu'un des premiers points, c'est les gens te disent « oui, c'est beau, etc. Okay, mais est-ce que tu es prêt à payer pour ça?
Okay. »
Parce que moi, je veux fonder une entreprise. Okay. Qu'est-ce que tu es prêt à payer?
Puis, y a-t-il un moment, appelons ça la préphase, préphase commercialisation, y a-t-il un moment où vous vous êtes dit, ça va marcher, ce truc?
Oui. Quand on a eu signé nos premiers clients et qu'on a vu un pattern qui se répétait dans la typologie des clients, là, on s'est dit, il y a quelque chose. Et plus on se concentrait sur ce marché, plus on entendait les mêmes retours. De « oui, c'est pertinent, oui, je vis le même problème, oui, c'est un problème qui me coûte cher ». Là, on s'est dit « ok, on a quelque chose ». Mais ça ne veut pas dire qu'on arrive à le vendre à toutes les personnes avec lesquelles on parlait, parce qu'ensuite, tu rentres dans plus la complexité de comment tu en fais un produit. Nous, on vient d'une technologie issue de la recherche. Et un des gros défis qu'on a eu, c'est comment on transforme cette technologie en un produit. Et ça peut paraître assez simple, mais nous, à l'époque, on avait 27 ans, on n'avait jamais développé une technologie. Jean-Maxime a un background tech, c'est lui qui avait développé tout le back-end en Python, etc. Mais c'est une expertise.
Et là, ça prend une interface. Ça
prend une interface. Ça a été la deuxième étape. Quand on a eu plusieurs clients qui nous ont dit « oui, il y a un problème, oui, vous avez quelque chose » et tout, ça a été capable de dire « voilà comment moi je pourrais faire vivre le produit pour toi. Voici comment tu interagirais avec la machine ». On dit « si ça, tu es capable de le construire, moi je suis prêt à le payer. Ensuite, il faut le construire.
Okay. »
Puis c'est là où...
Puis là, le construire, comment?
Il faut s'entourer. Okay. On s'est entouré dès les premiers jours de personnes dans notre réseau proche qu'on avait rencontré de par les premiers accélérateurs, datapreneurs. On avait rencontré une personne qui avait un gros background en technologie, donc qui nous a accompagnés sur le premier produit visible par un client. Le mettre sur des serveurs Amazon, que tu puisses aller sur une page web, que tu puisses l'utiliser toi-même, que ce soit accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. L'interface ressemble à quoi? Donc, embaucher des designers aussi pour faire les interfaces, penser à c'est quoi l'expérience que je veux faire vivre à mes clients. Et ce qui était drôle là-dessus, c'est que comme on parlait beaucoup avec des gens de UI et UX à l'époque, on pouvait aussi leur montrer comment on était en train de designer notre produit et ils nous donnaient des feedbacks.
OK. Puis, comment vous avez financé ça? Ça a coûté une fortune de développer ça, non?
Oui, ça coûte cher. On a eu des bourses. Au début, on a fait différents programmes d'accélérateurs. Donc, on a été capable d'aller chercher des bourses. On a fait ce qu'on appelle un Friends and Family Round. Donc, c'est-à-dire qu'on est allé voir notre famille et notre entourage.
Le love money.
C'est le love money, okay. Exactement.
On entend souvent celle-là.
Oui, mais c'est un des... Quand on n'a pas le background et qu'on ne peut pas tout développer soi-même, c'est souvent un passage un peu obligé quand on lance une technologie, parce que tu as besoin de fonds. Donc nous, on a levé en étalé sur un peu plus de 2 ans, un peu plus de 200 000 dollars en Friends, en Love Money. Et donc concrètement, c'est que ces gens-là te donnent de l'argent. Puis le jour où la compagnie a de l'équité, donc des actions qui sont émises, ils auront une partie de ces actions-là. Donc, ce n'est pas juste « je te donne de l'argent gratuit ». C'est « non, non, je te soutiens dans ton projet au moment où c'est le plus risqué, c'est les tout premiers investissements qui sont faits. Et si ça continue et que ça se passe bien, j'aurai une petite partie de la compagnie. »
OK. Alors, il y a un retour. Hein, ouais. OK. Puis, Si on avait à visualiser ça, là, vous avez un produit, vous avez une interface, les gens peuvent l'utiliser. Ça fonctionne comment? Je crée un visuel publicitaire. Ouais, c'est une photocopie. Je me sens, comment la machine fait pour évaluer le visuel?
La première version du produit qu'on a développé, donc, était vraiment sur prédire l'impact cognitif. C'est un peu comme le logiciel Canva qui permet de faire des designs. Donc, c'est vraiment, on a un écran, on importe les images qu'on veut utiliser pour nos publicités. Et ensuite, on lance l'analyse et la machine commence par générer une carte de chaleur qui montre qu'est-ce qui attire l'attention, qu'est-ce qui est mémorable. Et ensuite, on est capable de tracer des zones. Donc, par exemple, je veux savoir c'est quoi l'attention sur mon logo, c'est quoi l'attention sur mon produit, c'est quoi l'attention sur mon message. Je peux les tracer. Et là, on roule une deuxième analyse et on vient prédire un score, ce que nous, on a appelé le score d'impact, qui te montre la relation entre à quel point tu as attiré l'attention et à quel point cette information a été mémorable. Et donc, les résultats permettent toujours aux designers, en particulier sur ce premier produit, de dire, bon, j'ai 5 variations d'une même publicité. Et j'ai testé différents emplacements, différentes couleurs, différentes tailles. Et je me rends compte que, globalement, j'en ai 2 qui sortent vraiment du lot. Et donc là, ils sont capables de dire, bon, ça, c'est bon, je suis content avec. Ou alors de se dire, bon, j'ai une première version, je la teste. Je ne pensais pas que ça allait réagir comme ça, je vais tester autre chose. Donc, c'est vraiment itératif. Mais ce qui était intéressant pour les designers, c'était la première fois qu'ils avaient un produit où ils étaient capables, en quelques secondes, d'avoir un feedback loop, expliquer l'anglophone. Mais je le design, je le teste, et j'ai un retour, j'ajuste. Parce que c'est vraiment des métiers dans lesquels on n'a pas le temps. Donc ça, c'était...
Ça peut-tu être un exercice de... Je me mets dans la tête d'un designer qui a un côté artistique, qui a travaillé très fort sur son visuel, soumet son projet au système. Le système revient, c'est pas mémorable, ça attire pas l'attention. Tu sais. Là, il faut que je retourne à la table de dessin, puis je recommence mon...
Je dirais, ça dépend. On a vu différentes... Pour moi, ça vient vraiment avec les cultures d'entreprise dans lesquelles on travaille. Et on a vraiment vu les deux. On a vu des environnements où le laisser-erreur est encouragé et où du coup, en fait, il y a une appropriation quasi instantanée de la technologie de se dire, je le sais que du premier coup, je ne suis pas nécessairement bon. Je sais que j'ai peut-être raté des trucs. Mais là, au moins, je suis capable de rapidement itérer et de gagner en performance, en impact sur mon visuel. Dans d'autres environnements, le focus n'est pas mis là-dessus. Et ce qu'il faut, c'est juste aller vite. Et le retour, c'est j'ai pas le temps. J'avais comme 15 minutes, 20 minutes, j'ai fait mon visuel, j'ai repris les mêmes patterns que d'habitude, puis ça marche quand même. Fait que ça dépend. C'est un peu comme pour tout, l'adoption d'une technologie, ça vient aussi avec le contexte dans lequel on est.
Avant qu'on aille à la pause, y a-t-il des grandes tendances là, que ça ne fonctionne pas en raison de ces 5 éléments-là? Y a-t-il des choses que ça ressort constamment? C'est soit bon, c'est soit mauvais, mais... Quand tu mets ton logo de telle façon ou ton message est exprimé de telle façon, ça ne fonctionne pas ou ça fonctionne.
Je pourrais pas dire. En fait, il y a tellement de combinaisons possibles que c'est pas vrai que si tu fais tout le temps ça, c'est tout le temps bon. La couleur a un impact, le contraste a un impact, l'image que tu utilises en arrière-plan a un impact. Ça dépend.
Alors, il n'y a pas de tendance lourde qui ressort du système.
Non. Puis en même temps, on n'a pas envie. Parce que un des plus gros défis quand on fait de la publicité, c'est la fatigue avec la publicité. Donc, une marque est tout le temps en train de lutter contre ce qu'on appelle le ad fatigue et donc de renouveler ses inventaires de publicité et essayer de casser ce qui est redondant. Parce que quand c'est redondant et que tout est toujours au même endroit, le cerveau fait juste abstraction de ça.
OK. Là, on va aller à la pause. On revient dans 2 minutes. Puis là, on va parler de la base entrepreneuriale du HEC Montréal.
Parfait.
Ici Maude Desbois. À l'effet durable, on pose un regard vaste sur les enjeux environnementaux, la transition écologique, les défis de société et le développement durable par le biais d'entrevues et de chroniques qui s'appuient sur l'actualité environnementale. C'est un rendez-vous tous les mardis 10h, rediffusion lundi 8h, sur les ondes de CIBL 101.5.
Le balado Les solutions climatiques de la COP Carbone a pour objectif de lutter contre les changements climatiques, une conversation à la fois. On s'engage à réfléchir, à sensibiliser et à agir ensemble, une fois par mois, jeudi 11h. Depuis 2011, la COP Carbone mène son action à partir de 4 piliers, l'empreinte carbone, la biométhanisation, le bâtiment et la mobilité durable. Ce balado sera animé par Géraldine Cadier-Mirales, Maya Saloum et Olivia Vu, toutes 3 conseillères à la COP Carbone. C'est un rendez-vous jeudi 11h.
Salut, c'est Laurie Vachon. Dans Attache Tatoun, tu vas découvrir les artistes d'aujourd'hui et de demain. Une heure d'entrevue avec les artistes émergents pour parler de création, de leurs influences et bien sûr de leur univers. Viens écouter Attache Tatoun. Une heure de musique, une heure de découverte, c'est dans Attache Tatoun, jeudi de 13h à 14h sur CIBL 101.5.
CIBL 101.5, Montréal.
Nous sommes de retour avec Kevin Combes, cofondateur de la start-up Epoch AI, c'est tout ça qu'on dit? AI?
C'est ça.
Okay. Qui offre une solution technologique pour aider les publicitaires et leurs clients à faire de meilleurs choix lorsqu'ils créent des éléments visuels pour leur campagne publicitaire. Notez que tous les épisodes d'Intention Inc. sont disponibles en réécoute sur vos plateformes de balado préférées, Spotify, Apple Podcasts et Balado Québec. Kevin, parlons maintenant de la base entrepreneuriale du HEC Montréal. Première question, pourquoi vous avez décidé de faire affaire avec la base?
Je connaissais la base parce que j'étais passé par HEC. J'ai fait ma maîtrise à HEC en stratégie. J'étais très proche du département d'entrepreneuriat de par les cours et les professeurs que j'avais. Donc, j'avais entendu parler de la base aussi. J'avais cette image même de l'accélérateur Banque nationale de HEC comme prestigieux puis très compliqué à rentrer dedans. En 2020, on avait déjà fait un incubateur à l'Université de Montréal. On avait fait un autre accélérateur en Ontario, mais je voulais qu'on puisse être plus proche de HEC, de la base entrepreneuriale, et j'ai vu cette opportunité avec le parcours Ray Marcoux d'appliquer pour aller chercher cet accompagnement et aussi cette reconnaissance, parce que quand on fait un accélérateur et un incubateur, on vient aussi chercher à montrer la crédibilité du projet qu'on développe. Et nous, à l'époque, on a 27 ans, on sort d'université, on est encore tout jeune, fait que tu veux aussi aller chercher un peu des armes pour démontrer à l'externe que ce sur quoi tu travailles, ce n'est pas un projet à temps perdu le week-end.
Puis le programme Rémi Marcoux, ça, c'est un incubateur, ce que oui. Je comprends. Puis, peux-tu nous expliquer ce que c'est, ce programme?
C'est un programme qui vise à aider des projets entrepreneuriaux dans leur développement et la validation, je vais utiliser le terme de pertinence. Donc, de vraiment t'encadrer sur une période de quelques mois pour valider que ce que tu es en train de développer, l'idée que tu as, la solution que tu as, il y a un marché potentiel et tu es en bonne voie ensuite pour grossir et transformer cette idée en une entreprise. Donc, on n'est pas encore sur la logique comme des accélérateurs de croissance. On est vraiment sur, est-ce que tu parles au bon client? Est-ce qu'il y a un bon marché? Est-ce que c'est assez grand? Est-ce que tu peux répéter ça? Est-ce que ta solution répond réellement au problème? Mais ce que je trouvais aussi super intéressant avec le parcours Ray Marcoux, c'est le focus sur l'humain et l'entrepreneur derrière le projet. Et en fait, c'est une des premières choses qu'ils nous ont dites quand on a commencé, c'est que le projet peut évoluer. Mais l'entrepreneur, eux, c'est cette personne-là que nous, on veut accompagner parce que l'entrepreneuriat, c'est pas juste je monte une entreprise. Non, c'est un impact sur ta vie de tous les jours, sur ta vie personnelle. Et est-ce que t'as envie d'être entrepreneur avec ce que ça implique?
Alors, si je comprends bien ce que tu me dis, dans un premier temps, ils valident ton projet, voir est-ce que tu t'en vas dans la bonne direction, voici ce qu'on recommanderait comme direction, on vous challenge, grosso modo. Puis là, il y a un côté savoir-être qui est développé également, c'est ça le...
Exactement. OK. Exactement. C'est dans le processus de sélection, il y a oui, le projet, sur quoi tu travailles, pourquoi c'est important, pourquoi c'est important pour les gens, fine. Et ensuite, toi. Pourquoi t'as... Et je pense que c'est une des premières questions. Pourquoi vous êtes lancé là-dedans? C'est quoi qui vous anime là-dedans? Vous vous connaissez depuis quand, les cofondateurs? Pourquoi c'est important pour vous? Pourquoi vous avez envie de vous lever, travailler là-dessus pendant les prochains nombreux mois de votre vie? Et eux, de leur côté, c'est est-ce qu'ils se voient en mesure de nous accompagner en nous, en tant qu'humains, à se développer au travers de ce projet?
OK. Puis, c'est qui les intervenants qui vous challenge? C'est qui le...
On en a eu beaucoup. Je sais que Théo et Guillaume sont passés. J'ai eu Théo comme responsable de ma cohorte au parcours. Et Marcoux, c'était sa première année d'implication à la base. Donc, on a eu Théo toutes les semaines. T'en es où dans ton projet? T'en es où sur l'avancement des objectifs que tu t'étais donné? Est-ce que tu as parlé à telle personne? Robert Dotton, Nathalie Marcoux. On a eu vraiment Louis Cisneros. Donc, C'est aussi intéressant, l'entrepreneuriat. Des fois, on peut se sentir un petit peu seul. On était en temps de Covid aussi. Nous, on est rentré en 2020. Avoir des personnes qui ont un regard externe, mais qui vivent l'entrepreneuriat et qui accompagnent les entrepreneurs, posent les questions. Et ce n'est pas tant les solutions qu'on vient chercher, c'est les questions. Se faire poser certaines questions, des fois, on se dit « Oh, waouh, je ne l'avais pas du tout pensé à ça. » Puis, j'ai peut-être un énorme angle mort.
Peux-tu me donner un exemple où c'est arrivé, ça? Où tu t'es dit « Ouf, on a une chance qu'ils ont intervenu parce qu'on s'en mis réellement dans la mauvaise direction. »
Là, tout de suite, comme ça, on top of my head, j'aurais un petit peu de mal, mais c'est sur la façon de le présenter. Le parcours et Marcou, au début, c'était comment est-ce que tu le présentes à tes clients? La façon dont tu le présentes, nous, on était encore beaucoup, on présentait la technologie et on ne parlait pas assez du problème que nos utilisateurs vivaient. Et là, je sais qu'avec Théo, on a beaucoup travaillé là-dessus, de vraiment le faire le focus.
Il faut tomber en amour avec le problème et non pas avec le produit.
Exactement.
On l'entend souvent.
Exact.
Ça,
et on le sait, on le pense, mais on est tellement fier aussi de ce qu'on est en train de développer qu'on a envie d'en parler. Et ce n'est pas ce qui intéresse ultimement la personne au début. Ce qui intéresse, c'est comment tu réponds à mon problème.
Puis là, vous avez passé combien de temps dans cet incubateur?
Le parcours et Marcou, je pense que c'était 5-6 mois, donc entre le lancement et ensuite à la fin le démo day qu'on avait, avec des séances de pitch aussi. On a des intervenants, donc il y a un comité où 3 ou 4 fois on est venu pitcher, donc avec des investisseurs, des anges investisseurs, des gens du monde des VC, d'autres entrepreneurs. Et là, c'était vraiment à chaque fois le baptême du feu où tu as travaillé pendant 5 semaines sur comment retravailler ton pitch, etc., comment bien le présenter.
Donc c'est vraiment un bootcamp. Là.
C'est intense. C'est vraiment intense. C'est plusieurs heures par semaine entre les ateliers, les rencontres en 101. On a des mentors aussi. Et là, tu arrives devant le comité, en quelque sorte, et tu leur présentes. Et c'est super bienveillant, mais en même temps, ils te donnent un retour qui est super franc avec leur perspective. Et c'est sûr que des fois, tu te manges un peu des claques parce que pour toi, c'était sûr et que tu étais dans la bonne voie. Et en fait, avec les questions posées, tu te rends compte que non, tu as encore raté quelque chose, puis il faut que tu retravailles.
Incroyable. Êtes-vous encore au sein de la base ou...
On ne les a jamais vraiment quittés. Ah, après le parcours et Marcou, on a appliqué à l'accélérateur Banque Nationale. On a fait l'accélérateur Banque Nationale qui est la suite logique.
Okay.
Et donc, on a fait ça pareil. C'est un programme de 6 mois qui, là, se veut beaucoup plus intense sur l'aspect « Ok, tu as validé que tu as un projet qui a une pertinence commerciale avec l'opportunité de créer une entreprise. Tu as signé peut-être un ou deux clients. Maintenant, on va t'aider à te structurer pour la croissance. » C'est d'autres types de défis. Comment tu grandis, de qui tu t'entoures, qu'est-ce que tu fais. Tu ne peux pas nécessairement regarder ce que fait une grande entreprise comme L'Oréal et dire « je vais faire le même marketing que L'Oréal, tu n'as pas les moyens puis tu n'es pas rendu là ». Donc là, c'est de l'accompagnement vraiment sur comment tu crois, comment tu t'entoures et comment tu te donnes les bonnes bases pour monter une entreprise. Et là encore, on a des comités, on fait des pitchs et ils nous préparent à la fin pour faire un démo day face à une bonne partie
de
la communauté.
Alors, c'est des profs, c'est des entrepreneurs, c'est plein de monde qui interviennent.
Des profs, des entrepreneurs, des gens du monde de l'investissement. On a différentes perspectives. C'est super intéressant. Tu as des personnes qui veulent vraiment s'en aller avec un modèle, avec des investisseurs qui vont mettre de l'argent. Donc, c'est intéressant pour eux d'avoir la perspective des investisseurs. Et d'autres, non, veulent faire des projets où ça va être leur entreprise à eux. Et c'est quand même pertinent d'avoir les feedbacks de ces personnes avec toutes leurs perspectives.
Là, on s'en va à la pause musicale, parce qu'on a une pause musicale dans une émission d'entrepreneuriat, ce qui est un peu inusité, mais ça nous permet d'avoir une petite vitrine dans le vécu de notre entrepreneur. Et tu as choisi, j'ai été vraiment étonné quand tu as fait ce choix, c'est Coton Ouaté de Blue Jeans Bleu. Mm-hmm. Une tune vraiment québécoise. Alors, pourquoi tu as choisi cette tune?
C'est une chanson qui m'a marqué au moment où je l'ai entendue. Et ça me, à chaque fois que je l'écoute, ça me rapporte toujours à ce moment-là. Je venais de rentrer sur le marché du travail, puis on avait une bonne gang dans la première job que j'ai eue. Et il y a une personne qui est arrivée dans le coworking qui a mis cette chanson. Puis je pense qu'elle venait de sortir pas longtemps avant. Puis ça a comme créé une ambiance super positive tout d'un coup. Puis à chaque fois que je l'écoute, je me retrouve dans ce mood. Puis je trouve qu'elle a une bonne vibe.
Ouais.
T'es-tu bien dans ton coton ouaté? Hey! Y'a l'air de faire frais. T'es-tu bien dans ton coton ouaté? Si dehors il fait beau, mais que ça a pas l'air chaud chaud, je m'installe debout devant ma bay window pour savoir si c'est une journée
de petite laine ou de kiwi. Je me fie sur le bassin le moins habillé. C'est là que j'ouvre ma fenêtre et sans me gêner. Je lui demande comme si c'était mon bonbon. J'ai dit, hey, fais-tu fait? On est-tu bien juste en coton ouaté? Hey, y'a l'air de faire fait. T'es-tu bien dans ton coton ouaté? Lorsque vous êtes ambigu à propos de votre tenue, regardez les gens défiler dans la rue. Un col en vie, un col roulé, débardeur ou froc doublé. Est-ce une bonne journée pour sortir un bustier, un pantacourt ou un pantalon? Grosse combine ou bien bas de nylon? Une bonne paire de Kodiak ou un bas blanc dans vos sandales? On se laisse influencer par comment le monde est habillé. Mais pourquoi espionner en cachette? Y'a pas de honte à faire la blette. Dites hey, faites fret. On est-tu bien juste en coton ouaté? Hey, y'a l'air de faire fret. T'es-tu bien dans ton coton ouaté? Hey, faites fret. On est-tu bien juste en coton ouaté? Hey, y'a l'air de faire fret. T'es-tu bien dans ton coton ouaté?
Nous sommes de retour avec Kevin Combe, cofondateur de la start-up Epoch AI, qui offre une solution technologique pour aider les publicitaires et leurs clients à faire le meilleur choix lorsqu'ils créent des éléments visuels pour leur campagne publicitaire. Notez encore une fois que nos épisodes sont disponibles en format balado sur les grands supports comme Apple Podcasts, Spotify et Balado Québec. Avant d'aller à la pause musicale, on parlait de la base entrepreneuriale du HEC. Là, on parlait vous avez fait le programme incubation au début. Après ça, vous êtes passé au programme d'accélération. Ce que je comprends, vous êtes encore à la base, physiquement. Vous êtes là, toute l'équipe. Peux-tu nous parler un peu de comment ça se passe aujourd'hui?
Oui, mais les programmes, c'est une partie de ce qu'on a avec la base entrepreneuriale, l'accompagnement, les formations, l'accès à des mentors, etc. Mais ultimement aussi, c'est une communauté d'entrepreneurs et de personnes. Robert Dutton l'a fait graver sur des tasses qui est encore la base entrepreneuriale, business is people. Et c'est vraiment ça, et la communauté de la base entrepreneuriale, on continue d'y aller de temps en temps, une ou deux fois par semaine, pour continuer à rencontrer la nouvelle génération des entrepreneurs, puis ceux aussi qui ont fait partie de nous, notre cohorte maintenant, les anciens d'il y a 3-4 ans. Et à titre personnel, je mentore certaines startups du programme Éclosion, qui sont souvent des étudiants qui ont un projet puis qui se demandent si ça a une pertinence. J'ai été invité à intervenir de temps en temps sur des sujets comme des levées de fonds, etc. Parce que quand moi, j'ai été à cette étape-là, j'ai eu des gens qui sont venus et qui ont pris de leur temps bénévolement pour partager. Fait que pour moi, c'est un plaisir de pouvoir faire la même chose, puis de rester et de s'entraider dans l'écosystème. Fait que toujours proche de la base entrepreneuriale aujourd'hui.
Parfait. Parlons maintenant de plus en détail de Epoch. Là, évidemment, vous avez votre aire d'aller depuis 2020. Ça fait 4 ans que vous êtes en existence. Selon toi, ce serait quoi les grandes réalisations d'Epoch?
La première grande réalisation, c'est les premiers clients, le premier produit que tu mets en ligne, tes premiers clients qui capotent. Un bon Québécois de
ils ont capoté.
Ouais, mais de se dire, waouh, tu me l'avais présenté il y a quelques mois, puis là, tu me le livres, puis je peux l'utiliser, puis ça fonctionne bien. Fait que ça, c'est première grande réalisation, c'est mettre un produit et avoir des retours positifs de tes clients, à entretenir des relations avec les clients qui te permettent de faire évoluer aussi. Un projet de start-up, c'est au début, t'as quelque chose, mais il faut que tu évolues, il faut que tu grandisses, etc. Et puis ensuite, la croissance des revenus, de plus en plus de clients, de plus en plus de gens. Je pense que 2021, on avait des utilisateurs de plus de 32 pays qui étaient ceux qui utilisaient notre solution.
32 pays.
32 pays.
Okay.
La magie des technologies, on l'a mis en ligne, puis on générait du trafic de plein de pays, pas juste le Canada, les États-Unis. Donc là, tu te dis, waouh, tu sais, il y a quelque chose. En Europe, même Amérique latine, on a une personne qui a fait une vidéo qu'on ne connaissait pas pour promouvoir la solution EPOC sur YouTube. Pendant plusieurs mois, les pays d'Amérique latine étaient d'un deuxième source de trafic sur le site web et la création des comptes sur EPOC. Que ça, tu te dis, waouh, OK, il y a quelque chose. Il y a un marché, il y a quelque chose de grand, puis les gens se reconnaissent.
Par contre, il n'y a pas un risque que quelqu'un fasse ça pour le brand, pour la marque. Quelqu'un décide de faire une vidéo sur ton produit sur lequel il n'y a absolument aucun contrôle?
Il y a le risque. J'ai vu la vidéo, puis ultimement, la vidéo était très bien faite. Ça expliquait vraiment ce que faisait le produit. Il n'y avait pas d'informations qui pouvaient créer de la confusion. Mais oui, c'est sûr. Mais en même temps, dès que tu mets quelque chose sur un www, ça ne t'appartient plus. Il faut que tu partes du principe que ce qui est là, bah, les gens peuvent se l'approprier, peuvent en prendre des screenshots, peuvent le repartager, en faire des blogs, etc. Donc, il faut garder ça aussi en tête. Ce que tu mets en ligne, bah, ça appartient aux gens au final.
OK. Puis, là, vous avez commencé à prendre de l'expansion de ça. Vous commencez à avoir des clients, pas juste au Canada, mais à l'extérieur. Mais ces clients-là, ils ressemblent à quoi? C'est quel type de clients?
On a eu de la grande entreprise. Institution financière au Canada. Et on a eu des toutes petites business de monsieur, madame qui roule un petit e-commerce puis qui a besoin de tester ses créatifs publicitaires. On a vraiment eu un range assez grand. Je parle au passé parce que la solution ensuite qu'on a fait évoluer, aujourd'hui, on est sur vraiment plus un segment de small, medium business. Puis de plus en plus, on est en train d'aller vers de la grande entreprise. Mais on est vraiment passé par toutes les étapes. À une étape, ce qu'on se disait, c'est qu'on était un software, mais qu'on était sur un marché en B2C. Parce qu'on avait vraiment l'impression de vendre à un consommateur en individuel, moins qu'à une entreprise en tant que telle. Ça vient avec ses défis. Et graduellement, on a commencé là. On a validé le marché avec ces gens. On a eu des feedbacks. Puis un peu comme le saumon remonte la rivière.
Puis, tu as parlé d'institutions financières. Il y a une institution financière qui a fait affaire avec vous. Je suis curieux parce que moi, je viens du domaine financier. Je travaille pour plusieurs institutions financières. Sans nommer, ou si tu veux la nommer, tu peux la nommer, mais qu'est-ce qu'ils ont fait avec votre software?
Je ne pourrais pas la nommer, mais elle est bien connue. Elle est bien connue au Canada et au Québec. C'était sur l'utilisation, beaucoup dans les phases donc, de production des créatifs visuels, et de pouvoir les utiliser pour tester les différentes façons de positionner les éléments dans les créatifs publicitaires. On a un rectangle pour aller sur tel placement, on a un carré pour aller sur un autre. Est-ce que je mets le logo en haut à droite? Donc, tester des combinaisons et essayer de s'auto-challenger dans les équipes de création à se dire... Moi, je suis convaincu que le mettre rouge avec tel élément en dessous, c'est ce qu'il y a de mieux. Teste ton idée, puis on va tester l'idée de l'autre personne à côté. Puis en fait, non, le rouge, dans ce contexte, ça ne marche pas. Mais le rouge, dans un autre contexte, ça marche mieux. Donc, c'était vraiment pour eux être capable de rapidement tester des hypothèses et accélérer les phases de... les personnes dans l'agence présentent quelque chose. Ils ont déjà débattu à l'interne de est-ce qu'on fait ça ou est-ce qu'on fait autre chose. On présente ça aux clients dans la banque, puis ils sont comme « Ah ben... Moi, avant, j'aimais bien quand c'était de telle manière. Là, c'était un peu différent, fait que je suis peut-être pas convaincu. Non, là, il y a les points de vue, mais il y a aussi, voici l'analyse, voici les résultats de pourquoi est-ce qu'on veut aller dans cette direction et pourquoi est-ce que ça marche.
Mais c'est la banque qui est le client et non pas l'agence, c'est ça ou...
C'est les deux.
Okay.
La création des contenus est souvent faite dans des entreprises de cette taille-là au niveau des agences. Mais par contre, le client final, entre autres ici, l'institution financière, la personne qui est en haut a besoin de dire oui ou non sur le contenu qui va être mis en ligne parce que c'est sa marque. Donc, c'est un triangle amoureux entre nous, l'agence dans ce contexte et le client pour que tout le monde soit satisfait.
Puis, bon, là, en termes de marché et de cible, c'est quoi pour vous là, dans le futur?
Dans le futur, en fait, c'est ça. C'est l'évolution de ce produit initial dont je parle depuis tantôt, qui était vraiment sur l'impact cognitif, qui nous a amené aussi les retours de nos clients à nous dire « Écoute, c'est super bon, les designers capotent. » Puis c'est encore aujourd'hui un produit qu'on vend et que les designers adorent. Mais ultimement, moi, je roule des campagnes en ligne. Est-ce que tu serais capable de me prédire mes métriques de mois de performance, de click-through rate, de coût par lead? Et donc là, on a commencé à faire l'évolution du produit. C'est un KPI.
Okay.
Moi, je veux trouver de tous les créatifs que mes designers m'ont généré, lequel va maximiser dans une campagne de notoriété mon nombre de clics sur ma publicité. Parce que ça, tu es capable de le prédire. Ça, en 2022, on a fait de la recherche là-dessus. Et c'est là-dessus qu'on a fait évoluer, qu'on a lancé une version 2 du produit, une version évoluée du produit initial. Et c'est là-dessus, aujourd'hui, c'est sur ce produit qu'on capitalise un maximum. Parce que là, ça ouvre les portes de toutes les entreprises qui font du marketing de performance avec un objectif derrière de dollars. Et c'est là où c'est un peu le nerf de la guerre.
C'est-tu un KPI avant campagne ou c'est un KPI après campagne? C'est quoi là?
C'est les KPI qui sont suivis pendant que les campagnes sont lancées. Donc, mais c'est une campagne de notoriété. Ce qu'on veut, c'est s'assurer que les gens voient la publicité et ils s'en rappellent. Donc, mettons, on pourrait dire, ben, moi, je vais regarder, évaluer, pour savoir de mes créatifs lesquels sont les meilleurs, sur cette campagne, je vais regarder le taux de clic. Bon, ben, nous, ce qu'on fait avec le produit qu'on a créé, c'est qu'on apprend de tous les historiques de campagne du client. C'est quoi les créatifs qu'il a mis en ligne? C'était pour quelle audience? C'était quoi les performances en termes de clics et autres qui avaient été obtenus? Notre modèle apprend ça. Et ensuite, quand le client veut lancer une nouvelle campagne avant qu'il commence à dépenser le premier dollar...
Il y a l'historique.
Il met son créatif sur notre plateforme. Il nous dit à qui il veut montrer ses créatifs, donc son audience. C'est quoi l'objectif de la campagne? Et nous, on peut lui dire, ben, ce créatif, on prédit qu'il a un taux de clic à 1,3%. Et cet autre créatif, il a un taux de clic à 2%. Okay. Et là, la personne peut prendre une décision de dire, bon, ben, mes designers m'ont proposé plein d'idées, plein de solutions. Je les trouve toutes en accord avec ma charte de marque. Mais par contre, ce que je vois, c'est que j'ai des résultats qui vont du simple au double. Donc, je vais concentrer mon budget sur ceux qui, clairement, se démarquent en termes de performance.
Puis, dans le meilleur des mondes, IPOC, dans 5, 10, 15 ans, c'est quoi? Ça ressemble à quoi?
C'est une solution qui est complètement intégrée aux outils marketing et au processus marketing des grandes entreprises et qui permet de simplifier, d'accélérer la création de contenu efficace. On parle vraiment l'IA aujourd'hui, on parle du generative AI, etc. On s'en va là-dedans, on va aller de plus en plus vite. La question maintenant, ça ne va plus être la question de la quantité de contenu qu'on est capable de créer, mais la qualité. Et nous, c'est vraiment là-dessus qu'on veut se positionner, c'est là-dessus qu'on veut amener de la valeur aux entreprises, c'est les aider à mettre leur argent sur les contenus de qualité qui génèrent de la performance.
OK. Puis, on parle de marché de combien en dollars, si tu avais le chiffré?
Dès qu'on touche à la publicité, c'est des dizaines et des centaines de milliards. Okay. Aux États-Unis, c'est des centaines de milliards.
Et êtes-vous les seuls, on ne peut pas être les seuls qui font ça en ce moment dans le marché ou c'est,
L'approche neuroscientifique est ce qui nous distingue profondément de nos compétiteurs historiquement. Beaucoup de solutions marketing technologiques sont nées de la donnée qu'on sort des plateformes. Nous, on sort de la donnée des plateformes, mais on a un regard avec l'aspect neuroscience que très peu d'autres compagnies sont capables d'avoir parce que c'est une perspective, les neurosciences. Il y a beaucoup de choses qui ont été découvertes il y a quelques années et comme tu le disais au début, c'est complexe. Fait que nous, c'est le match entre ces deux approches qui nous distingue de nos compétiteurs, ce qui fait que très souvent, quand on arrive sur des appels avec des entreprises qui utilisent beaucoup de solutions technologiques, c'est comme, j'ai jamais entendu parler de ça, de comment vous le faites et de la façon dont vous êtes capable de le faire.
Là, on arrive proche de la fin. J'aimerais ça parler un peu de résilience. Ça a été quoi le moment le plus difficile pour toi, puis Jean-Maxime, dans le développement de ce projet-là?
Tenir dans le temps.
Tenir dans le temps.
Ouais. On le savait dès le début. Je pense qu'on avait eu des bons mentors et on avait été bien entourés. On savait que ça allait être un marathon, okay, et pas un sprint. Et je pense que c'est ça. Les dernières années l'ont montré. L'entrepreneuriat, c'est des hauts et des bas. Et ce qu'il faut, c'est être capable de tenir sur la durée parce que tant que tu es en business, tu as encore l'opportunité de gagner. Il ne faut pas se brûler.
En début d'émission, j'ai parlé du fait que vous avez reçu un financement assez important. Ça a dû aider beaucoup. Hein. Ça a dû...
Ah, c'est sûr. Avant ça, on fonctionnait avec 3 mois devant nous. Là. Okay. On avait 3 mois de cash sur le compte, pas capable de faire un gros projet parce que tu n'as pas assez de liquidité. Tu es à 10, 20 000 sur le compte en permanence. On se sous-payait, on était pas mal plus endetté. Fait que là, tu dis, bon, ben, j'ai un montant significatif, je l'ai, puis là, je peux vraiment genre, faire des projections et me structurer sur l'année et demie et me donner les moyens de mes ambitions. Fait que, oui, c'est sûr, mais on change de game. T'es plus sur un projet où tu gères aux 3 mois. Là, il faut que tu te structures et tout. Et on a des investisseurs qui nous ont aussi énormément accompagnés là-dedans. Mais on sous-estimait avant la levée de fonds ce que ça signifiait les implications derrière de comment tous les changements qu'on allait devoir faire pour suivre la cadence nécessaire.
Là, on arrive vraiment à la toute fin. Je vais te poser une dernière question. Après ça, je vais aller à mes remerciements. Selon toi, Kevin, est-ce qu'on est entrepreneur ou est-ce qu'on le devient?
On le devient à 100%.
Ah oui? Pourquoi tu dis ça?
Ça s'apprend. Tu as peut-être des choses dans ton passé qui t'ont plus ou moins prédisposé, mais encore une fois, c'est ce que tu as vécu qui fait que tu deviens entrepreneur. Et je pense que tu as des gens qui ne se voient jamais entrepreneur et quelque chose se passe dans leur vie à 40, 50 ans, et ils sont capables de devenir entrepreneur. Fait que j'aime pas les concepts de dire que maintenant que c'est comme ça, ça ne changera plus jamais.
Alors, voici mes remerciements. Kevin, merci d'avoir accepté généreusement ton temps.
Un plaisir.
D'accepter notre invitation. Merci à Paul Viaud, à la technique, recherche et la rédaction. Chers auditeurs, merci d'avoir été à l'écoute de Intention Inc. Tous nos épisodes, encore une fois, sont disponibles en balado pour la réécoute sur notre site Intention Inc. On se retrouve jeudi prochain dès midi pour une nouvelle rencontre. Nous concluons l'émission avec ton deuxième choix musical, Kevin. C'est « Dégénération de mes aïeux ». Tu me surprends à chaque fois.
Premier souvenir de Cabane à sucre au Québec. Pareil, ça part une bonne ambiance.
Ton arrière-arrière-grand-père, il a défriché la terre. Ton arrière-grand-père, il a labouré la terre. Et puis ton grand-père a rentabilisé la terre. Et puis ton père, il l'a vendu pour devenir fonctionnaire. Et puis toi, mon petit gars, tu sais plus ce que tu vas faire. Dans ton petit 3,5, ben trop cher, fret en hiver. Il te vient des envies de devenir propriétaire. Et tu rêves la nuit d'avoir ton petit lapin de terre.
Ton arrière-arrière-grand-mère, elle a eu 14 enfants. Ton arrière-grand-mère en a eu quasiment autant. Et puis ta grand-mère en a eu 3, c'était suffisant. Puis ta mère en voulait pas, toi t'étais un accident. Et puis toi, ma petite fille, tu changes de partenaire tout le temps. Quand tu fais des conneries, tu t'en sauves en avortant. Mais y'a des matins, tu te réveilles en pleurant. Quand tu rêves la nuit d'une grande table entourée d'enfants. Ton arrière-arrière-grand-père a vécu la grosse misère. Ton arrière-grand-père, il ramassait les scènes noires. Et puis ton grand-père, miracle, est devenu millionnaire. Ton père en a hérité, il l'a tout mis dans ses REER. Et puis toi, petite jeunesse, tu dois ton cul au ministère. Pas moyen d'avoir un prêt dans une institution bancaire. Pour calmer tes envies de hold-up et la caissière, tu lis des livres qui parlent de simplicité volontaire. Des arrière-arrière-grands-parents, ils savaient comment fêter. Tes arrière-grands-parents, ça swingait fort dans les veillées. Puis tes grands-parents ont connu l'époque yéyé. Tes parents, c'était les discours, c'est là qu'ils se sont rencontrés. Et puis toi, mon ami, qu'est-ce que tu fais de ta soirée? Éteins donc ta TV, faut pas rester en cabané. Heureusement que dans vie, certaines choses refusent de changer. Enfile tes plus beaux habits, car nous allons ce soir danser.
Vous cherchez une activité originale, ludique et rassembleuse? Venez jouer avec nous au Bingo Radio de CIBL tous les dimanches de 13h à 15h sur les ondes du 101.5 FM. À gagner 3 500 $ en prix. Pour participer, procurez-vous un livret de cartes de bingo pour moins de 10 $ dans un point de vente près de chez vous. Consultez la liste sur notre site web au CIBL1015.com sous l'onglet Bingo Radio de CIBL. C'est un rendez-vous les dimanches de 13h à 15h sur les ondes du 101.5 FM. Invitez vos amis. Bonne chance!
Zine Tonic, c'est une émission dynamique sur le fanzine, la culture underground et les archives littéraires au Québec. Je reçois une zineur zineuse pour jaser d'inspiration et de création. Chaque mercredi, 18h, sur les ondes de CBL 105 FM Montréal.
Le quatrième mur.
Bon, Siri, c'est quoi, mettons, là, l'émission qu'il faudrait absolument écouter à CBL tous les lundis de 15h à 17h?
Le quatrième mur.
Salut, je m'appelle Sophie Chartier. Si vous êtes comme moi, ça vous arrive de vous demander qu'est-ce que les gens écoutaient, mettons, en Afghanistan dans les années 70? Ou bien, c'est quoi la différence entre salsa et bachata? Les vendredis à 20h30 sur les ondes de CIBL 101.5, embarquez avec moi et mes invités dans un voyage spatio-temporel à la découverte d'un courant musical fascinant. Ses origines, ses chansons, ses artistes. Courant d'air, c'est l'émission de découverte musicale à ne pas manquer pour une exploration en profondeur et en plaisir des musiques marquantes du monde entier.
Bientôt, dans 5 minutes.
CIBL 101.5, au cœur de Montréal.